Benedetta Papasoli, vous êtes professeur, écrivain. Vous avez aussi, dans votre parcours, vous vous êtes arrêté sur un spirituel qui vit à partir de son cœur, qui vit à partir de l'esprit, qui explore l'intériorité, et qui est Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'homme venu du vent ».
Oui, l'homme venu du vent, et ce vent est bien sûr le Saint-Esprit, mais ce vent est aussi le génie de l'aventure. Louis-Marie Grignon de Montfort était un garçon breton qui est parti à un certain moment de sa vie, comme les jeunes chevaliers du Moyen-Âge, et qui a découvert vraiment des régions inconnues. Donc le titre veut faire allusion à ces deux côtés de la personnalité de Grignon de Montfort, c'est-à-dire l'homme de l'esprit, l'homme de la prophétie. Je crois que dans mon livre, bien sûr, j'ai dû et j'ai voulu mettre en relief la dimension mariale de la spiritualité montfortaine, mais ce côté de l'inspiration prophétique a été peut-être encore plus au centre de cette recherche biographique. Parce que lorsqu'on suit un peu l'aventure humaine, la biographie de Grignon de Montfort, alors on sort vraiment de toute iconographie dévote, un peu, comment dire, doucereuse. Parce que là, on a un géant, un homme rude, courageux, très solitaire, qui a connu dans sa vie l'échec, qui n'est devenu fécond qu'après sa mort et grâce à la présence d'une sœur ou d'une fille, d'une femme de toute façon. Marie-Louise Trichet qui a repris son héritage. On pourrait dire, même c'est un peu paradoxal, mais que c'est elle qui a fondé la congrégation montfortaine. Donc Louis-Marie Grignon de Montfort m'a fascinée, je l'avoue.
Est-ce qu'on peut dire dans votre parcours, qui commence avec la littérature française, que Louis-Marie Grignon de Montfort fait un peu l'unité de votre parcours littéraire et spirituel?
Peut-être, alors je vais vous faire encore une autre confession. Mon premier amour ont été les saints. Donc avant la littérature, avant la rencontre avec les grands textes littéraires, je pensais franchement que la seule chose au monde qui valait la peine d'être étudiée, c'était les saints. Donc j'avais commencé par étudier les saints et Grignon de Montfort a été une passion de jeunesse, hein, mais qui a marqué, qui m'a aidé à m'orienter sur un chemin. Je crois que je suis arrivée au XVIIe siècle grâce à Louis-Marie Grignon de Montfort. C'était une découverte décisive et ça a été la découverte d'une histoire et d'une géographie aussi, parce que je me souviens avoir fait un pèlerinage dans les lieux montfortains, dans la forêt de Brocéliande, la forêt des légendes bretonnes. Et ce pèlerinage, cet itinéraire dans les lieux montfortains a signifié vraiment une découverte de toute la réalité de l'expérience de ce saint si original.
Est-ce que vous arrivez à transmettre à vos étudiants ce lien entre littérature et spiritualité? Ou du moins, est-ce qu'à travers la littérature, il s'ouvre à une dimension intérieure?
Les étudiants me surprennent toujours. Naturellement, ils me déçoivent aussi, ça arrive, mais très souvent, ils me surprennent. Parfois, j'impose des cours qui pourraient être très lourds et même ennuyeux. J'ai plusieurs fois acheminé mes étudiants vers l'étude de Fénelon. Alors, vous savez, Fénelon, on a dit que le Télémaque de Fénelon, c'est le voyage au bout de l'ennui. Donc, ça a été une magnifique découverte, le fait de voir que le génie pédagogique de Fénelon était encore vivant et que mes étudiants ont avoué, ont reconnu d'avoir fait le tour de l'humain grâce à des cours sur la méditation, par exemple, ou bien grâce à la lecture de ce livre si suranné qu'est le Télémaque de Fénelon. Au milieu de quelques déceptions, je dois dire que la sensibilité et l'ouverture profonde des étudiants est toujours une joie pour ceux qui enseignent.
Est-ce que vous avez déjà une perspective pour les années qui viennent par rapport à ce travail sur l'intériorité chez les auteurs du XVIIe siècle?
Et maintenant, j'ai des projets pour continuer à étudier Fénelon. Pourquoi Fénelon? Parce que Fénelon a été l'auteur d'une extraordinaire synthèse entre la culture classique, l'humanisme de son temps et une spiritualité totalement exigeante. La radicalité de sa spiritualité et du pur amour qui devenait d'autant plus universelle qu'elle était solitaire et, disons, élitaire. Alors, cette synthèse, maintenant, il y a un opuscule de Fénelon sur le pur amour où il affirme que le pur amour est l'idéal le plus partagé, le plus universel qui soit, même chez les auteurs païens, même dans l'Antiquité et dans l'expérience de l'amitié, de la passion. L'idéal du pur amour reste le centre, le pivot de l'expérience humaine. Alors, cette alliance entre valeurs, disons, humanistes, non, et valeurs spirituelles m'encourage à continuer l'étude de Fénelon. Il y a aujourd'hui une grande question. Qu'est-ce que c'est que la littérature? À quoi sert la littérature? Pourquoi la littérature? C'est une ancienne question qui revient. Et aujourd'hui, il y a eu des enquêtes, des débats. Pourquoi enseigner la littérature? À l'université, aujourd'hui, on pense plutôt à enseigner la langue ou bien la culture. Alors, je voudrais témoigner de l'importance de l'enseignement et de l'approche de la littérature en tant que lieu d'une maturation affective et d'une recherche de sens qui permet des synthèses qui sont très nécessaires face à la fragmentation des savoirs, à la multiplicité des excitations et pas seulement pour les jeunes gens.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui nous écoutent? De prendre un auteur, quelle serait votre pédagogie pour se plonger dans la littérature, pour finalement être à la découverte de l'homme et de soi?
Là, j'aurais une peu de difficulté à vous répondre, parce que je crois qu'il y a deux attitudes possibles, l'une et l'autre juste. D'un côté, la curiosité intellectuelle. Donc, le courage de lire, de multiplier les lectures, d'aborder des sujets qui ne sont pas les plus proches, les plus naturels. Donc, de connaître les littératures étrangères. De l'autre côté, je me souviens d'un mot de François de Sales qui disait qu'il faut n'avoir qu'un livre. Et à ce moment-là, je pense qu'il ne faisait pas allusion à la Bible. Donc, il fallait être l'homme de peu de livres. Donc, il faut quand même avoir des livres qui sont des livres de chevet, auxquels on peut toujours revenir, et donc qui apprennent des lectures en profondeur. Donc, malgré tout, je pense, comme Pascal disait qu'il faut toujours tenir les deux bouts de la chaîne, il ne faut jamais renoncer aux deux versants, aux deux faces d'une médaille. Donc, je pense qu'il faudrait arriver à tenir ensemble ces deux exigences face à la lecture et à la connaissance littéraire.
Est-ce qu'on peut vous demander un ou deux titres de vos livres de chevet?
Bon, j'avoue que je lis beaucoup Pascal. Peut-être vous l'avez compris. Oui, je lis beaucoup Pascal. Et là, je vais peut-être vous surprendre. Un autre auteur qui a été pour moi infiniment fécond, c'est Marguerite Yourcenar. Et notamment son dernier roman, c'est plutôt un conte, un roman bref, Un homme obscur. Donc, entre Pascal, entre les pensées de Pascal et Un homme obscur de Marguerite Yourcenar, qui est une extraordinaire parabole de la condition humaine, un livre amer et en même temps d'une douceur surprenante, où l'on suit la destinée d'un homme simple jusqu'à sa mort. dans une île qui est un lieu tout à fait symbolique. Donc entre ces deux livres, je trouve très souvent mon ailleurs où je suis bien.